Les Rencontres internationales du documentaire de Montréal célèbrent leur 25e édition. Une occasion unique de profiter des meilleurs documentaires d'ici et d'ailleurs.
Cet automne, les RIDM reviennent entièrement en salle avec des projections, des soirées festives et plus encore.
Rendez-vous du 17 au 27 novembre prochain dans nos différents lieux de diffusion.
Pour en savoir plus, consultez la programmation au ridm.ca.
Les RIDM, là où toutes les histoires se rencontrent.
Salut, c'est Superplage et vous écoutez choc.ca.
J'espère que vous allez bien en ce lundi froid, glacial. Florence et Raja, comment allez-vous?
Salut Cyrine, ça va super et toi?
Moi ça va, écoute, on est en souterrain donc on ne subit pas trop la neige. Et toi Florence, comment ça va?
Moi ça va super bien. Parlant de froid, je pense que justement c'est... je porte mon foulard aujourd'hui, c'est une espèce de cocon... qu'on vit depuis une semaine à peu près après l'arrivée de la neige.
Ouais.
C'est quelque chose quand même.
Oui, et en fait, moi, je me posais la question parce que moi, comme vous savez, je viens du Maroc. Et donc, c'est un pays qui est assez chaud. Et en ces périodes de froid, en fait, les gens ne font que rester chez eux. Toutes les activités culturelles et tout ça, c'est pour après. Et donc, je me demandais si ici... C'est la même dynamique et comment les gens se comportent avec le froid en ce qui concerne toutes les activités culturelles. Et donc voilà, c'était ça ma question.
C'est beaucoup d'activités en intérieur, est-ce que je me trompe?
Ouais, non, c'est sûr que je pense qu'à ce temps-ci de l'année, rares sont ceux qui vont justement faire... quoi qu'il y ait le Igloo Fest, qui est le festival à l'extérieur, là, qui... promouvoir les activités extérieures, les artistes, puis tout le monde arrive avec leur gros soute de neige puis ils célèbrent ensemble. Mais t'as raison, je pense que les gens ont tendance à rester chez soi. Mais d'où, justement, la pensée des salles de spectacle de promouvoir ce rassemblement-là. Je pense que, moi, on dirait que ça m'appelle plus d'aller voir, par exemple, un film ou d'aller voir un concert à l'intérieur quand il fait froid dehors parce que, justement, il n'y a plus le parc. Le 5 à 7 d'été au Parc Laurier, où tu sais, il n'y a plus nécessairement les terrasses, les bars. Donc, je pense que c'est positif, peut-être, pour ça en soi. Ouais. Mais.
Surtout que c'est. Moi, je trouve que si c'est comme. Si les salles de spectacle sentent une bonne alternative, ils doivent aussi encourager les gens à sortir un peu de chez eux. Parce que c'est très important qu'en période de froid, on sait que. Qui dit froid dit dépression, dit les gens qui s'enferment chez eux et tout ça. Et donc, je trouve que c'est très important pour la santé mentale de manière générale, leur santé mentale, leur bien-être, le fait de vivre et de cohabiter avec ce froid-là. Et donc, vivre et sortir et s'adapter au mode de vie et non pas le changer et rester chez eux. Et donc, je trouve que le fait de... promouvoir la culture et les événements culturels à Montréal ou au Québec, ça serait une bonne alternative ou une bonne initiative pour que les gens sortent de chez eux, quoi. Mm-hmm.
Puis, je pense que tu as raison. Je pense qu'on le fait. On le fait peut-être pas assez de promouvoir justement les événements. C'est pour ça que je suis contente justement d'en parler en nombre.
Exactement.
Mais justement, je pense que je ne survivrai pas à ce 7 mois de froid au Québec, parce que c'est vraiment 7 mois des fois, là, si on n'avait pas l'opportunité de se rassembler dans des salles ou d'aller voir des expositions ou des choses comme ça. Je pense que c'est une beauté de justement partager des moments. Là.
Oui.
Ben, justement, les filles, moi, j'ai une question pour vous. Qu'est-ce que vous avez fait de culturel cette semaine en intérieur?
Oui, ben en fait, justement, on en parle en plus un peu au début de l'émission, là, le RIDM. Moi, je suis allée à la soirée d'ouverture jeudi dernier à l'Impérial. RIDM, la rencontre, les rencontres internationales du documentaire de Montréal qui ont lieu justement du 17, jeudi dernier, au 27. Alors, je vous en parle, mais vraiment, allez voir leur site. J'ai jamais assez mettre l'emphase là-dessus. Là. C'est vraiment incroyable comme opportunité qu'on a d'avoir ça à Montréal. Et c'est jusqu'au 27. Donc, vous avez encore le temps, au moment où je vous parle, d'aller voir ce qui se passe en salle de spectacle un peu partout dans la ville. Il y a la programmation en ligne au ridm.ca. Mais, donc, je suis allée au cinéma L'Impérial. Le RIDM, dans le fond, pour ceux qui savent un peu moins c'est quoi, c'est la 25e édition cette année. Donc, ils ont fondé ça en 1998. C'est un organisme à but non lucratif fondé par un regroupement de cinéastes documentaires du Québec. Le mot « rencontre » est important pour eux parce que, justement, ils visent sur un échange. Tu sais, il disait au début, là où toutes les histoires se rencontrent. Donc, on veut vraiment créer un échange entre le cinéaste et le public. C'est pour ça qu'ils vont créer, justement, des projections. Cette année, au menu, là, il y a des projections, il y a des tables rondes, des activités, des leçons de cinéma, tout organisé autour du documentaire. Et l'objectif, en fait, de ces événements-là, c'est de renouveler notre rapport au monde et au documentaire comme forme artistique, de mettre en valeur, justement, les salles, d'aller aux événements. Là, c'est une chose, regarder un documentaire de chez soi, c'est une autre chose, aller le voir en salle de spectacle. Puis... je sais pas si vous partagez un peu ça. Là.
Oui, en fait, parce que moi, j'étais totalement... je ne savais même pas que c'était une option, là, de pouvoir voir le film documentaire. Est-ce que c'est une projection qui se fait au cinéma et de manière générale ou c'est spécifique au festival, en fait?
En fait, ben, c'est là, le festival, le RIDM, ça se passe en salle de spectacle. Ils vont projeter les documentaires de à peu près 150... si je ne me trompe pas, c'est à peu près 150 films internationaux et canadiens qui sont projetés.
Et des films documentaires?
Ouais.
OK.
Ouais, exactement. Donc, c'est tous des documentaires qui sont projetés puis qui font le tour d'horizon, par exemple, de l'année 2021 qu'on vient de voir. Uh-huh. Être en salle de spectacle, c'est incroyable. Au sens où tu vis ensemble, tu sais, je veux dire, quand tu es chez toi puis tu le regardes sur ton ordi... t'as pas le même effet que de le vivre avec d'autres gens qui partagent la même expérience. Après, on peut en parler, tu sais.
Surtout que le film documentaire en soi, c'est une retranscription de la réalité, du vécu. C'est beaucoup moins scénarisé, c'est beaucoup moins fictif que n'importe quel film. Et le fait, c'est double. Tu vis doublement l'expérience, c'est doublement plus interactif et doublement plus réaliste qu'un film de fiction. Et le fait de pouvoir le vivre... moi, je vivrais bien cette expérience-là. Le fait de pouvoir le vivre avec des personnes,
oui,
ça serait plus immersif, je dirais.
Ouais, puis, tu sais, le documentaire, c'est vraiment... Ça amène une réflexion. Je pense que tout le cinéma en tant que tel amène une réflexion générale, mais vraiment, il pousse à, justement, la rencontre des réflexions, que ce soit un échange, rencontre des regards sur le monde, rencontre des visages, des paroles, rencontre des créateurs, créatrices avec le public... c'était vraiment ça. Puis là, j'ai assisté à la cérémonie d'ouverture. Mm-hmm. Je raconte un peu.
Oui.
On arrive au cinéma L'Impérial, où est-ce que j'étais allée voir L'Innocent de Louis Garrel. Mm-hmm. Superbe cinéma, vraiment. On arrive là, on ouvre les portes, puis déjà, 20 minutes avant le début, on arrive, puis ils nous demandent à l'entrée, ils sont comme, est-ce que vous avez été invité? Puis on est comme, ben, invité, qu'est-ce que vous voulez dire? Tu sais, je suis un peu perplexe, puis ils étaient comme, ah, est-ce que vous êtes sur la guest list? Parce que justement, c'était la soirée d'ouverture, fait qu'il y avait tous les cinéastes.
Ah,
les...
OK.
Fait que là, tu te sens un peu comme, ah, ben, on a un billet. Fait que là, il est comme, ah, pas de problème, rentrez, super, un accueil super chaleureux. On arrive dans une salle bondée de monde. Mm-hmm. Les gens prennent un verre avant le spectacle, c'est vraiment ambiance festive. Puis là, donc là, on est comme, OK, ouf, il y a beaucoup de monde, on va aller voir en salle.
Et d'un côté, ça fait plaisir de voir quand même que ça attire autant de personnes et que ça a autant d'engouement.
Vraiment, oui, c'est ça. Mais tu sais, en même temps, c'est un peu un stress parce que là, on était comme, oh merde, est-ce qu'on va avoir assez de place
pour nous? Est-ce qu'il y a assez de place pour nous?
Donc là, on arrive dans la salle, puis on fait comme les allées après allées, aucune place assise, genre c'est rempli, les gens ont mis leur manteau, tu sais, partout
c'est
pour réserver.
C'est
ça, puis il y a des places réservées justement parce que à cette soirée d'ouverture-là, on avait les programmateurs, on avait toute la direction derrière le RDM, les cinéastes, okay. Donc eux, il y avait leur salle réservée, c'est sûr. Mais c'était comme une malchance qui s'est transformée en chance parce qu'en fait, on est allé au balcon. Puis j'ai toujours rêvé d'essayer le balcon. Puis c'est vraiment cool, en fait, parce qu'au balcon, il restait de la place encore, heureusement.
Okay.
Mais t'as une super belle vue, hein?
Mais oui, je suis d'accord. Moi, quand j'étais partie voir en roue libre oui. à l'Impériale, mm-hmm. Je me rappelle qu'on s'était mise au balcon avec mon amie et nos autres amis étaient genre, non, on va être en bas. Comme d'habitude, l'écran est fait pour qu'on le voit bien d'en bas. Mais je trouve que quand t'es au balcon, t'as pas forcément mal au cou. Genre, l'écran est pile en face de tes yeux et c'est vraiment hyper agréable. Puis il est magnifique.
Ouais, vraiment, t'as une vue d'ensemble.
Ok. Vous-même, pour les personnes qui ne savaient pas, moi, la première.
Ouais.
Donc, si on vous pose en balcon, ça sera quand même une bonne expérience pour
et
vous.
Et encore plus à l'Impériale, parce que t'as vu sur tous les ornements, les moulures au plafond, il est magnifique.
Okay. Vraiment, j'ai pu plus observer la salle que la dernière fois. On est arrivé, puis les seules places qui restaient, c'était comme en avant. Moi, jamais je prends la rangée en avant quand je vais voir un film d'habitude, parce que ton cou est complètement cassé, là. Mais... non, c'est vraiment, si vous allez à l'Impérial, je recommande le balcon. C'est vraiment bien. Donc, c'est ça, là, on a accès à, justement, là, ça commence. Là, on a les partenaires, les réalisateurs, les programmateurs qui viennent faire vraiment des speeches, là, tu sais,
pour les speeches d'ouverture.
Ouais, exactement. Puis c'est le fun de, justement, voir la perception derrière l'équipe il y avait un des fondateurs du RDM qui est venu parler, puis je trouvais ça vraiment intéressant de voir la perspective, l'idée qu'il y avait derrière en fondant ça.
Oui.
Puis même que au début de l'ouverture, il disait, tu sais, on a créé ça, on est super fiers, on vous le présente aujourd'hui, mais il y a encore du travail à faire. Puis c'était vraiment un appel pour justement mobiliser les gens à soutenir les cinéastes documentaires, à amener les gens à voir plus de salles, tu sais, plus de films en salle, parce que c'est une réalité avec la pandémie. Là, tu sais, c'était bondé parce que c'est la soirée d'ouverture.
Ouais. Mais avec la pandémie, en fait, tout s'était éteint. Et là, c'est comme on avait vu même avec Cinémania, tout est dans le... Ils sont en train de faire renaître les choses, remobiliser les gens.
C'est ça, parce que même en 2021, même s'il y avait eu un petit retour, entre guillemets, à la vie normale, toutes les éditions de festivals de l'année post-Covid ont encore dû quand même
s'adapter
exactement, revoir leur manière de proposer leur programmation. Et en fait, je pense que le vrai retour, ça a été cette année, que ce soit pour FNC, Festival du Nouveau Cinéma, Cinémania ou RIDM. On doit réapprendre à vivre un vrai retour en salle, avec des gens. C'est quelque chose qu'on n'avait pas vu depuis finalement 2019.
Oui.
Parce qu'en 2020, on était privé, en 2021 aussi, et là, 2022. Donc, en fait, ça fait à peu près 3 ans qu'on n'avait pas vécu ce vrai retour, ce vrai retour en salle.
Et moi, je trouve en fait que l'enjeu principal derrière ça serait de... Parce que si jamais il n'y a plus de... On a vu, il y avait le Covid, et là, on fait une grosse cérémonie d'ouverture pour tous les festivals, pour tout du film ou du documentaire. Mais l'enjeu derrière ça, c'est en fait de garder les gens captivés. C'est que après cette soirée-là, après, qu'est-ce qu'on fait? Et moi, je trouve que c'est là tout l'enjeu de toutes les programmations de tous les festivals. Et donc voilà.
C'est ça. Je pense que justement, il faut en parler.
Il faut promouvoir davantage et motiver les gens. Pour pouvoir assister, pour faire revivre tout ce... De plus que ça nous apporte, nous, autant en tant que spectateurs, beaucoup aussi.
Mm-hmm. Puis c'est aussi que, tu sais, on est comme, heureusement et malheureusement, les héritiers de justement une technologie qui nous permet d'avoir un accès incroyable en ligne à plein de choses. Si on regarde l'ONF, si on regarde toutes les plateformes qui diffusent énormément de contenu, c'est incroyable parce qu'on peut avoir accès à plein de cultures du monde en même temps, mais... Ça crée aussi une culture fragmentée parce que personne ne voit les mêmes choses. Donc après ça, comment est-ce qu'on peut avoir un espace de partage? Puis c'est pour ça que en salle de spectacle.
Ouais. Oui, et en plus, c'est pas du tout la même expérience, le fait de regarder chez soi tout seul, peu importe l'écran que tu as chez toi, ça ne va pas recréer l'atmosphère, l'ambiance du cinéma ou du théâtre et tout. Et donc voilà.
Ouais, puis justement, les films qui étaient projetés, le premier court-métrage, c'était Déraciné. Mm-hmm. Puis c'est Déraciné. Donc, okay. Vous voyez un peu les...
Ouais. Le jeu de mots.
Le jeu de mots. Moi, j'ai trouvé ça vraiment beau. Juste le titre, j'étais comme, OK, waouh. c'est vraiment... Je pense qu'il y a quelque chose qui se dit beaucoup à l'intérieur de ces trois mots-là. Mm-hmm. Tu peux te sentir déraciné, mais aussi de là, déracine son nez, en tout cas. Mm-hmm. Puis c'est un court-métrage qui a été réalisé par Alou Naya dans le cadre de la résidence Regards sur Montréal 2022. Donc, c'est un Montréalais du Conseil des arts de Montréal. Donc, dans le fond, la description, c'est « Déraciné de sa terre d'origine, la diaspora tente de s'enraciner ailleurs, mais est-ce encore possible d'appartenir? » Donc, le court-métrage, je pense que vraiment, c'était ça le thème, de chercher un peu un sentiment d'appartenance. Comment sentir qu'on fait partie d'un tout alors qu'on en cherche un. Tu sais, c'est... Puis, je veux dire, moi, j'avais aucune idée à quoi m'attendre. Vraiment. Puis c'était un court-métrage très imagé. Il y avait peu de mots, mais beaucoup d'images, par exemple, du rapport au sol, de la terre, des racines. On voyait quelqu'un qui était justement dans un environnement, je pense, et là, je fais un appel, peut-être que je me trompe, mais je pense que ça a été filmé à Verdun, au bord de l'eau, parce que j'ai grandi à Verdun, puis je reconnaissais les saules pleureurs avec le fleuve qui s'étendait. Des images assez d'une teinte, je dirais... beige, couleur d'automne. On était beaucoup dans, justement, le mouvement, un regard posé sur les choses, un rapport au territoire à travers les images, de l'eau, des arbres, des feuilles. Tu sais, il y a comme une allusion un peu que j'ai ressentie au Québec où on s'est enraciné d'un territoire qui n'était pas nécessairement le nôtre. Tu sais, je veux dire, le rapport au territoire québécois est assez... nuancé parce que justement on est arrivé sur des terres qui ne nous appartenaient pas, mais fait que tu vois un peu toute cette lutte, puis ben c'est vraiment de ma perception à moi. Et justement tu as un symbole, une main qui sort dans la nature au début et à la fin, il y a une main qui sort de cette nature là qui tente, on dirait, de soit que c'est un appel à l'aide ou qui va vers l'autre, qui tente de trouver où elle appartient. C'est vraiment, tu sais, t'as une personne que tu suis dans ce paysage de la nature qui bouge, se moue, tu sais, qui fait partie de cette nature-là, puis qui tente justement de s'enraciner quelque part sans vraiment savoir ce que c'est ce sentiment d'appartenance.
Mm-hmm. Et sans savoir, j'imagine, d'après ce que tu racontes, sans savoir non plus à quoi appartenir ou quelle est la destination finale ou... ce sentiment d'appartenir à quoi exactement, en fait tout est questionné ici. Mm-hmm. Et donc il n'y a pas de c'est pour dire qu'il n'y a pas de d'endroit précis et que c'est toute une recherche à travers ce film là. En fait, en t'écoutant parler, toi tu parlais plus de s'enraciner et du fait que au Québec c'est appartenir à des terres qui ne vous appartenaient pas en quelque sorte. Mais moi, en écoutant comment tu racontes, moi, ça m'a plus fait rappeler des personnes qui sont deuxième génération d'immigrés et qui sont, elles aussi, dans cette quête-là, à savoir où appartenir, qui ont parfois le sentiment de n'appartenir ni pleinement à leurs origines, ni au pays, à leur pays où elle s'en est et tout ça. Et donc, je trouve que ce film-là, et d'après ce que tu nous as raconté, avec une image parfaitement, avec des paroles parfaitement imagées, que c'est un sujet universel. Et ça l'est dans le fond un peu, parce que c'est un combat, peu importe où tu es né, du moment que ce sentiment d'appartenance est questionné de par l'histoire, de ton histoire personnel, donc ça fait sens et ça résonne.
Oui, c'est ça. Je pense que c'est la force de ce court-métrage-là, c'est que de ton point de... peu importe le point de vue, tu sais, peu importe ton regard,
ton background,
oui, ton background, tu sais un peu te rattacher à ce que cette personne-là symbolise dans le film, tu sais, comme la fusion, tu sais, l'image de la main, c'est on essaie de se relier à quelque chose du bout de nos doigts, c'est comme de venir de partout mais de nulle part. Mm-hmm. En tout cas, je trouve que c'est un propos qui est tellement d'actualité, puis que
oui, ça l'est,
beaucoup de gens,
ouais. Et moi, je trouve, c'est là, en fait, je pointe juste, à mon avis, toute l'intelligence du fait que ce documentaire-là, et pour ce sentiment d'appartenance, n'a pas fait que suivre une personne durant sa quête, durant ses problèmes-là. Parce que quand on pense au film documentaire, c'est ça ce qu'on pense. C'est quelque chose de concret. Et ce film-là ne s'est pas juste contenté de suivre une personne, et donc... ça serait difficile pour moi si je partage pas la même histoire ou que je m'identifie à ce film. Mais il a plus essayé de représenter le sentiment d'appartenance en soi. Sans...
Oui, c'est vrai, c'était vraiment une représentation plus d'une émotion, d'un sentiment, que de quelque chose de concret, de voir le parcours de quelqu'un. Dans le court-métrage... On ne sait pas c'est qui cette personne-là.
Exactement.
C'est vraiment plus un ressenti, des émotions que tu vis à travers... J'ai trouvé que la forme artistique était très intéressante au sens où tu vois, justement, c'est à travers les images. Il y a peu de mots. Puis, tu sais, je veux dire, moi, dans la vie, je parle beaucoup. Je suis habituée de voir en journalisme des contenus très chargés de mots, d'entrevues, de recherches, d'enquêtes, mais d'être projetée à un média... un médium qui est vraiment plus dans l'image, j'ai trouvé que ça voulait encore plus dire, j'ai l'impression.
Oui, et que ça résonnait plus universellement et que ça ne se rattachait pas à une telle ou telle partie de la cause en général.
Puis c'était quand même brillant, tu sais, je veux dire, pour la cérémonie d'ouverture en plus, qui venait de présenter l'aspect de rencontre du RIDM, je trouvais que c'était très bien choisi parce que justement, c'était un appel à cette rencontre-là ensemble de pouvoir essayer de trouver comment se rattacher quelque part, comment... Ouais.
Oui. Et en fait, tout à l'heure, tu parlais de discours parce que en fait, de ce que je sais, c'est que pour chaque festival ou chaque cérémonie d'ouverture, il y a toujours un thème derrière ou une histoire derrière. Et donc, je voulais te poser la question. Et je ne sais pas si tu y as répondu en disant que le thème derrière cette édition, c'est la 25e si je ne me trompe pas, du RIDM, c'est le fait qu'il y a encore du travail à faire.
Mais je ne sais pas, là j'ai regardé deux documentaires, je pense que ce c'était le message de cette œuvre-ci. Je ne pense pas que c'est... Mais en fait... T'apportes un bon point au sens où je pense que le message de dire, c'est on se rencontre puis on se fait une représentation collective de ce qui se passe dans le monde à travers les œuvres. Puis à partir de cette représentation-là, ben là, on peut prendre action. Puis on peut genre justement discuter puis en parler. Puis justement, je pense que ça faisait partie du tour d'horizon de cette année, justement de cette.
Okay.
Mais ce qui fait partie de ces années.
Ben écoutez, merci beaucoup les filles. Merci Florence. On va se laisser en musique avant de reprendre. Et aussi, Raja, tu nous parleras de...
Oui, du ciné-socio et du programme concocté par Lucas.
Excellent. On se laisse en musique avec Arrobas de Mantis.
Courbons à l'entour de la piscine. Quand faut le concours sous le matelas. D'or empiré. Tiens, la marée.
pas essayer. On fixe ses droits dans l'ombre et à l'abri de nous-mêmes.
Écoutez toujours dans les airs, toujours en compagnie de Florence et Raja. Florence va nous reparler d'une des soirées des RIDM qui l'a particulièrement marquée, n'est-ce pas?
Oui, donc c'est pas encore fini. Cette soirée-là, très exhaustive en soi, le court-métrage Déraciné, c'était la première partie, en 8 minutes, de justement... qui faisait l'ouverture de cette cérémonie, mais qui était la première partie du documentaire Rewind and Play de Alain Gomis. C'est un documentaire qui présente le portrait d'un musicien afro-américain jazz, Thelonious Monk. Et puis, ça s'inscrit dans une perspective, justement, ils ont construit le documentaire en grande partie à partir d'archives de l'enregistrement de l'émission Jazz Portrait de télévision française. Okay. C'est un pianiste de grand talent qui est allé en France et puis au cours de ses visites en France, justement, on voyait qu'il y avait un choc au niveau culturel. C'est un documentaire qui critique, c'est une critique culturelle vraiment hégémonique au sens où il y avait beaucoup, beaucoup un regard très colonialiste sur ce qu'il faisait en France. Et c'est immensément confrontant, ce documentaire-là. Ben, en fait, c'est que il y a pas une... c'est un portrait de cet artiste-là à travers les archives d'une émission où est-ce qu'il enregistrait des questions sur sa vie. Mais tu vois tout ce qui a été coupé au montage et les questions qui lui étaient posées de manière très... colonial au sens mm-hmm. où on sentait qu'il était instrumentalisé, on sentait qu'il vivait une profonde angoisse, beaucoup de plans sur justement son regard, son front qui tremble de sueur, qui arrive mal à se faire comprendre, à faire comprendre son art. Il y a quelque chose, tu sais, je veux dire, il y a des moments où est-ce que c'était tellement absurde que la salle riait, genre, parce que c'était... Tu sais, par exemple, il expliquait que quand il venait en France, il avait de la misère la première fois à trouver des pianistes, des musiciens accompagnateurs. Puis que, en fait, ces pianistes-là, il avait réussi à les trouver, mais ils avaient été payés moins bien que lui, au final. Puis il explique ça, puis en fait, l'intervieweur, le français, reprend ces paroles-là, puis il dit on coupe son montage, c'est pas pertinent. T'sais, c'est comme, il y avait une grande censure autour de la réalité, justement, qu'il avait comme personne noire en Europe. Puis c'est très touchant parce que, justement, Alain Gomis nous plonge dans son art, dans cet artiste complexe. Il met en valeur son talent comme pianiste et il y a des longues séquences de lui qui joue, justement, et qui est plongé dans cette musique-là, qui est très complexe, qui est vraiment... Moi, j'ai trouvé que c'était un chef-d'œuvre au niveau de la construction de ce documentaire-là, puis au niveau de la représentation de cet artiste.
Oui. En fait, en t'écoutant parler... C'est comme si, durant la vie de cet artiste en France, c'est comme si on lui avait on avait fait abstraction de son art et plus on s'est focalisé sur sa personne et sur le sur tout ce qui représentait, toutes les connotations tout ce que ça rappelait chez les gens. Et donc c'est comme si ce réalisateur à travers ce documentaire là essayait de comme projeter la lumière sur l'art de ce pianiste là mm-hmm. sur son art, parce que avant tout il est parti pour son art, pour faire son art mm-hmm. et donc c'est comme si ça lui a été volé et toutes les projections ont été autour mm-hmm. des débats infinis.
Mais oui, mais dans un sens, je pense que son art était reconnu, mais je pense que c'est qu'il se faisait complètement oublier pour la personne qu'il était. Je pense que le respect qu'on avait pour cet artiste-là s'arrêtait à la musique qu'il faisait. Que sa personne était négligée. Qu'il se faisait parler comme... Tu sais, je veux dire, il se faisait adresser la parole comme... Je sais pas, c'était comme d'une méprisance. La beauté de ce documentaire-là, c'est que justement, c'est beaucoup, encore une fois, à travers les images, puis que la perception, tu sais, je veux dire, moi, je vous parle de ma perception à moi, peut-être que oui. D'autres ont ressenti d'autres choses, mais j'ai vraiment eu l'impression que cet artiste-là essayait d'oublier tout le regard qu'on mettait sur lui à travers sa musique. C'est que lui, au final...
C'était son échappatoire.
C'était son échappatoire. Puis qu'il se défoulait dans sa musique. Tu sentais qu'il relâchait la pression puis l'incompréhension qu'on avait à son égard dans sa musique. Okay. Non, mais vraiment, c'est...
C'est chargé en émotions.
Ah ouais, tu te sens pas bien, là, tu te sens de travers, là, de penser que c'est une réalité que...
Qu'il a vécu et qu'énormément d'autres personnes ont vécu aussi.
Ont vécu, tu sais, ça se passe dans les années... 80, tu sais, c'est...
Okay. C'est assez récent?
Ouais,
c'est assez récent. Moi, je croyais que c'était... Okay.
En fait, non, je pense que c'est plus dans les années 50.
Ah, OK. Ouais.
Non, ouais, c'est ça, je me mélange, oui, mais... Voilà. Tu sais, à cette époque-là, justement...
Oui.
C'était la réalité. Mm-hmm. Je pense qu'encore des artistes peuvent le vivre.
Aujourd'hui, et moi aussi, je partage avec toi la même chose, c'est que peut-être, et c'est en effet le cas, qu'il y a pas mal d'artistes qui vivent encore ces situations-là, et... C'est en fait d'où, entre autres, à part le fait de redonner l'image à cet artiste-là, mais entre autres, il y a le message derrière, le fait de sensibiliser et de scandaliser les gens envers ce genre de comportement-là.
Mm-hmm. De confronter les gens à justement une réalité qui est très encore d'actualité. Oui,
exactement.
Donc, c'est ça qui clôt la cérémonie, puis après ça, il y avait un 5 à 7. En fait, pas un 5 à 7, mais après c'est les projections, on pouvait se rassembler à la Cinémathèque québécoise, mm-hmm. parce que là, c'était justement l'occasion de parler des œuvres, de prendre un verre, puis de célébrer un peu.
Et il y avait des professionnels...
Oui, c'est ça. Okay. Donc, l'échange avec les cinéastes qui étaient sur place. Vraiment, le cinéaste de Alain Gomis n'a pas pu être présent pour mm-hmm. parler de son film. Mais Alunaya était là. Avant chaque film, ils présentaient leur œuvre, puis après ça.
Okay.
Donc, vraiment, une superbe soirée, le RDM, qui s'est lancée en force, je pense, cette rencontre-là internationale. Oui. Puis, vraiment, allez voir les œuvres. C'est ce que j'ai à dire. RDM.ca, tout y est. Je vous avais jusqu'au 27 novembre.
Donc, on a toujours le temps?
Oui, vraiment.
OK. Allez-y. Donc, ça serait super.
Bah, merci beaucoup, Florence. En tout cas, c'était hyper intéressant. Moi-même, j'irai voir quelques documentaires parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup du cinéma, de films, de fiction, mais on donne peu de place aux documentaires dans la culture, finalement. Donc, c'est une très, très bonne chose qu'il y ait tout un festival sur les documentaires. Bah, merci beaucoup, Florence. Raja, tu vas nous parler de ce qui se passe en ce moment à l'UQAM. Oui.
Exactement. Alors, merci Cyrine. Alors, comme chaque semaine, l'UQAM prépare organise au sein de son local ou de par des professeurs et des étudiants pas mal d'activités culturelles qui sont parfois gratuites et ouvertes à tout le monde. Donc, on a pour le lundi 21 novembre, donc aujourd'hui, il y a un concert de Copercus qui est ouvert au jeune public. où le duo R, groupe de musique de chambre de musique contemporaine formé par David Brango, percussionniste, et Louis-Philippe Bonin, qui est saxophoniste, ainsi que Marie-Annick Béliveau, chargée de cours à l'UQAM, nous présente Copernicus, qui est inspiré librement de l'opéra de Copernicus de Claude Vivier. Les tout petits, dès un an, sont aussi amenés à assister et ils sont doucement amenés à entrer dans l'univers du compositeur montréalais, dans les sonorités et rythmes typiques de son œuvre. Le mardi 22 novembre, comme si vous suivez un peu, c'est Yami Midimus en chant pop. C'est un événement qui est récurrent à l'UQAM et qui est un concert des étudiants de chant pop et qui est gratuit et ouvert à tout le monde. Et ça se passe au pavillon de musique à l'UQAM. Le jeudi 29 septembre, il y a l'événement Ciné-Sociaux. Alors, Ciné-Sociaux, c'est une initiative du département de sociologie de l'UQAM et qui font une programmation de films. Ces films-là sont qui traitent d'un sujet sociologique. Et donc, il y a une projection de films autour de thématiques sociales suivie de discussions avec les réalisateurs de ce film-là et qui sont présents avec un spécialiste, à savoir un professeur du département, dont la spécialité est celle du film, par exemple, du film projeté. Et donc, ça crée un superbe moment de diffusion parce que tu es avec des étudiants. Comme tu peux ne pas être étudiant à l'UQAM, tu peux venir si tu veux assister à cette projection-là. Et derrière, il y a aussi un débat avec la réalisatrice parfois, ou des fois c'est juste les professeurs spécialisés dans ce domaine-là. Et donc ça crée un échange riche et donc c'est comme allier la théorie au terrain, au film, au cinéma. Et donc je vous recommande vraiment d'y aller. Et donc le 24 novembre, donc ce jeudi-là, à 18h, il y aura la diffusion de Un pays qui se tient sage, qui est un film de 2020 et qui sera suivi d'une discussion avec Marcos Ancelovici, et qui est un professeur au département de sociologie. Le 8 décembre aussi, il y aura une nouvelle projection. Donc, si vous aimez bien, si vous aimez bien en fait le concept, vous pouvez assister à plusieurs films. Aussi, ce vendredi-là, 25 novembre, il y aura le concert Midimus, encore de piano classique. Concert de la classe de piano classique avec les étudiants de Simone Boisseau, Vincent Boulet, Amy Cornu et Ricard Denis, et qui seront avec la pianiste chargée de cours Sonia Dudley. Et donc c'est gratuit. À chaque fois en fait que je prononcerai Midimus, ça peut concerner plusieurs arts, et donc c'est toujours gratuit et ouvert à tout le monde, que vous soyez étudiant ou pas. Et donc, le dimanche 27 novembre, il y aura le concert de Jean-François Haché, guitariste québécois, qui interprétera uniquement des pièces du compositeur Atikame Pascal Sassiville. Et donc, vous pouvez prendre les billets sur place. Et de toute façon, pour toutes les informations que vous souhaitez avoir sur cette programmation-là, vous pouvez aller voir les événements culturels de l'UQAM. Et donc, voilà.
Si je peux me permettre, Raja,
oui.
Un pays qui se tient sage, il me semble que c'est un documentaire français sur la police en France.
Oui.
Et pour l'avoir vu, je le recommande à beaucoup de personnes. Si vous avez l'occasion de le voir, visionnez-le parce qu'il okay. est très, très, très puissant.
Et en plus, il sera projeté. Il y aura même une discussion avec un expert, un professeur expert okay. en sociologie. Donc, ça sera très, très intéressant.
Ouais, je le recommande particulièrement. Il est assez violent. Mais il est très intéressant.
Ok, donc c'est noté. Donc n'hésitez pas, c'est gratuit, c'est ouvert à tout le monde. Et vous pouvez vous renseigner davantage sur toute la programmation en fait, organisée par l'UQAM. Et donc, c'est tout pour cette semaine. Merci.
Merci à toi, Raja. Florence, est-ce que tu avais un petit commentaire?
Oui, j'ai manqué le dimanche 27 novembre, c'était...
Le concert de Jean-François Hachet.
C'est où? C'est,
Non, c'est pas à l'UQAM. Oui, c'est dans une salle de spectacle et donc vous pouvez checker et pour prendre les billets en ligne. Et donc c'est sur le site de l'UQAM parce que vous aurez toutes les informations. Même sur le site de l'UQAM, vous aurez les informations parce que sûrement il y a un professeur de l'UQAM ou un étudiant qui participe à cet événement-là et donc c'est sur le site.
Ah, super intéressant.
Mm-hmm. Excellent. Wow. Bah, merci beaucoup, les filles. C'était hyper intéressant. Belles activités culturelles en ce moment à Montréal. On ne se laisse pas abattre par l'hiver.
Non.
Florence, Raja et Olivia et Léonie, qui ne sont malheureusement pas là aujourd'hui, sont là pour vous rappeler de continuer à vous cultiver, de sortir. Nous avons la chance de vivre dans une ville qui ne se laisse pas abattre par la météo. Que ce soit l'hiver ou l'été, on a toujours quelque chose à faire.
Exactement.
Donc, voilà. Restez avec nous. On va écouter une entrevue de Saint-Martyr effectuée par Estelle Grignon, directrice musicale chez Choc. Donc voilà, restez avec nous. Les filles, merci.
Merci, Cyrine.
Et excellente journée ensoleillée.
Merci.
Merci. À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Vous écoutez le choc.ca avec Estelle Grignon, présentement en direct de l'ESCO, où je vais vivre mon baptême des Saints Martyrs, qui viennent présenter donc un spectacle absolument incroyable et invraisemblable pour présenter aussi leur album Mythologie de dernier recours. Je suis en compagnie de certains des membres du groupe, d'autres qui sont un peu plus loin, qui checkent leur téléphone, mais il y en a deux en ce moment qui ont leur micro, et je les invite à se présenter à l'instant, messieurs.
Bonjour, je suis votre frère Foutre. Je suis le meneur de troupe au sens de la cérémonie. C'est moi qui vous explique comment ça fonctionne. Et ensuite, les musiciens vous rentrent dedans et vous font vivre toutes sortes d'émotions et vous font danser.
Salut, moi c'est Souffrance. Je suis un musicien qui vous rentre dedans. Je suis sociopathe et ça va aller mal.
Très hâte, mon Dieu, pour ce spectacle. Donc, très hâte de souffrir juste un peu, juste assez. D'ailleurs, des fois, je demande aux artistes à qui s'adresse votre spectacle, mais j'ai envie de vous demander à qui est-ce qui s'adresse pas? C'est qui le public anti-cible d'un show des Saints-Martyrs?
Moi, je pense que c'est pour tout le monde. On veut que tout le monde vienne. On a même une zone de violence concentrée qui est comme délimitée. Autour de ça, il peut y avoir les gens plus curieux qui veulent pas trop se joindre à l'action directement, qui veulent voir, qui veulent s'initier peut-être, ou qui sont juste des gens plus tranquilles. Il y a des gens de... Moi, ma mère, elle vient personnellement, puis elle adore, elle trouve ça très comique. Toutes sortes de gens qui viennent, il y a des enfants aussi qui viennent des fois. Je pense anti-public. Moi, je suis pas contre personne. Ma violence est distribuée également sur tous les membres de la société, même moi-même. Il y a pas de... J'aime tout le monde, je déteste tout le monde, c'est fantastique.
Oui, que rajouter après ça? Ben, peut-être si j'ai une réponse plus sérieuse, je dirais les intolérants, hein, parce que... C'est un culte poli de confession plurielle, je dirais. Donc, ceux qui sont pas ouverts à ça, à la diversité des confessions, des expressions, des émotions, des genres aussi, risquent de pas trouver leur compte. Donc, qui sait, j'ai certains gens dans ma famille, fonctionnaires un peu bornés dans leur zone de confort, par exemple, c'est peut-être pas pour eux. Mais j'aimerais ça, les inviter quand même. C'est pour les gens qui sont game, finalement.
C'est une question d'ouverture d'esprit. Puis j'aime aussi beaucoup savoir qu'il y a cette zone de violence où il va y avoir, j'imagine, mosh pit, peut-être Wall of Death, peut-être du démembrage. Et il y a la section un peu plus tranquille où je risque d'aller parce que, mon Dieu, là, ça fait des jours de festival que je vais ménager un peu mon pauvre corps où je peux... observer d'un petit peu plus loin, très contente de savoir que cette possibilité-là est là. Elle t'a évoqué des mots là, de mythologie, des mots de prêtre et tout ça. L'album s'appelle donc Mythologie du dernier recours, mythologie qui est écrit au singulier, mais je pense que votre album est inspiré par de nombreuses mythologies, en fait.
Oui, tout à fait. L'idée, c'est un peu d'en créer une syncrétique, si tu veux. J'utilise un terme savant, à travers toutes les pièces, mais oui, c'est surtout mythologie occidentale, mythologie grecque et biblique, principalement.
C'est aussi inspiré de l'aide financière de dernier recours, aussi appelée aide sociale, dont certains membres ont été bénéficiaires pendant des décennies.
Ouais, c'est un moment assez touchant, ça, hier. Chaque jour, on a comme on apprend à se connaître un peu plus dans le band. Comme moi, j'ai appris que notre claviériste était daltonien aujourd'hui. Bon, c'est un détail, mais ça montre que je pense qu'on peut travailler, approfondir notre relation. Parce que je ne savais toujours pas après 3 ans. Mais hier, j'ai appris justement à Souffrance que c'était un hommage aussi à sa vie d'assisté sociale quand j'ai choisi de donner le titre mythologie de dernier recours, car oui, c'est bien le nom officiel du BS, l'assistance de dernier recours.
Il y a plusieurs choses qui se passent dans cet album-là, dans votre band. Il y a du punk, du metal, du prog, du pop, quasiment de l'opéra rock. Est-ce qu'il y a un style qui vous intéresse moins et que vous ne pensez pas explorer, ou vous pensez explorer tous les styles d'ici la fin de votre carrière?
Apparemment, on a une obsession sur le ska. D'ailleurs, on a eu une longue conversation avec toi-même que tu as coupé au montage. Donc, on verra pour ça. Je vais laisser Souffrance, qui est plus, comme dirait, le directeur musical du projet, répondre.
Moi, il y a juste un truc. J'adore le rap, mais les gens qui savent pas rapper puis qui s'improvisent rappeurs, je suis vraiment contre. Fait qu'on fera pas ça.
En même temps, vous avez collaboré avec tellement de gens qui font des choses. Je veux dire, vous pouvez pas chanter comme Lou Adrian Cassidy non plus. Peut-être pourriez-vous un jour avoir un rappeur de Québec
qui
vient
collaborer? Ah oui, c'est évidemment, mais c'est, nous, on ne rappera pas.
Souffrance est impliqué dans des projets...
Ouais, je suis impliqué dans des projets pop, mais je parle... Ça se peut qu'on on a une toune à nausée qui est comme un gros beat rap, il y a juste un de mes amis rappeurs qui veut faire un loop la toune, mais tu sais, nous, faire du rap, genre, je pense que...
Mais mettons, faire du ska, c'est très possible, c'est sur la table.
Oh my God! C'est une réaction viscérale. Genre, tu sais, j'ai rien contre le ska. Un de mes groupes préférés ever, c'est Map de Cap Rouge, du ska core, début des années 2000. Oui. Ça a marqué ma vie. Mort ou pourri, props. Mais genre, je sais pas. Je pense que je suis pas assez bon à guitare pour faire du ska. For real, c'est tough quand même.
Ah ouais?
C'est quand même technique du ska. Ouais. Il y a une technique précise, je la maîtrise pas du tout.
Comme j'ai dit, donc oui, il y a Lou Adrian sur cet album, il y a Kid Kuna, il y a Rock Sarkhan, il y a beaucoup de gens. Est-ce que c'est difficile convaincre les gens, surtout la région là, de Québec, d'embarquer dans votre projet?
Pas du tout, non. Ça, c'est le bénéfice de travailler au Pantoum. Donc ça, c'est vraiment un lieu qui, je crois, pas d'équivalent à Montréal. Moi, je me trompe. Parce que c'est pas du tout en vase clos qu'on travaille là-bas. Il y a des espaces justement communs où les gens se croisent, les gens se parlent de leurs projets, de leurs influences. Puis justement, ça se mélange beaucoup puis ça crée des nouvelles formes, des nouvelles idées. Je pense que c'est pour ça justement que, comme tu disais, il y a beaucoup de genres. Ça va vraiment dans tous les sens, mais ça marche. En même temps, ça va dans une direction aussi cohérente. Puis il y a beaucoup d'invités aussi qui contribuent. Donc ça c'est vraiment parce qu'on est au Pantoum qu'il y a cet élément-là sur l'album. Je pense que le caractère assez unique du projet, qui se distingue pas mal par rapport à la scène Québec ou au Québec, c'est ce qui rendait ça peut-être attirant pour ces gens-là. En tout cas, on est allé vers des gens qui avaient envie du risque, un goût du risque aussi, tu sais, de jouer avec leur image. Puis, comme on disait hier, je pense, en jasant, c'est pas une coïncidence finalement si on découvre, par exemple, cet été dans sa série de spectacles, Lou Adrian a un petit côté un peu provocateur, qu'on connaissait pas nécessairement. Moi, j'étais pas très familier avec ce qu'elle faisait. T'sais, là, au final, on a quand même bien vu les points qu'on a en commun, même si musicalement, on est quand même c'est aux antipodes. Mais je pense que c'est vraiment un goût du risque qui nous a unis, là. Puis un goût de, je sais pas, faire la musique différemment, puis un peu de s'en foutre de plaire et d'être populaire ou whatever, mais juste d'inventer quelque chose puis d'être à fond dedans.
Et l'esprit au Pantoum est très communautaire, très collaboratif. C'est pas une question de genre. Tu sais, on est en 2022, c'est moins cadré que... Moi, je me rappelle quand j'étais jeune, t'étais soit métalleux, soit punk, soit rapper, soit genre pas de style ou je sais pas quoi. Là. Tu sais, genre t'écoutais la pop, la radio
oui,
aujourd'hui.
C'était les punks contre les rap, les poils contre les yo. Là.
Les poils contre les yo. Puis tu sais, moi je viens d'arriver sur de Québec en plus, c'était vraiment intense. Là. Mais tu sais, aujourd'hui, tout ça se mélange. Puis je sens que le Pantoum est un lieu extrêmement ouvert à ça. Puis nous, on fit pas tant dans la scène métal per se de doux ou de plus bâti. Nous, on est quand même des doux. Là. Fait que dans la vie de tous les jours, là, tu sais, parce que...
On parlait de zone de violence quand on c'est pas doux. Là.
Non, mais on a des choses à sortir, mais tu sais, je pense qu'on... On n'est pas unidirectionnel comme individu. Puis c'est pas pour dis la scène métal, mais c'est que ça va dans un sens. Puis nous, on n'est pas exactement de cette façon-là. Moi, je suis un grand fan des Backstreet Boys, autant que je suis un fan de black metal. Tout ça, pour moi, est absolument cohérent. Il n'y a pas de problème. Fait que, tu sais, quand on voit des personnes comme Lou, on la croise au Pantoum une fois de temps en temps, elle nous dit qu'elle kiffe nos affaires, on kiffe les siens. C'est juste, ça va de soi. Là. C'est comme, cet endroit-là est fait pour ça. Là.
C'est le Pantoum pour les gens, évidemment, beaucoup de gens qui nous écoutent viennent de Montréal. C'est une espèce d'incubateur, j'imagine. Ça fait 10 ans que ça existe. Il y a des spectacles qui se donnent là. Je pense qu'il y a des studios aussi, il y a des espaces. Et il y a tellement de bonne musique, surtout dans les, je dirais, 4-5 dernières années, qui est sortie de la ville de Québec, qui vient du Pantoum. Vous, est-ce que vous vous souvenez, mettons, la première fois où vous avez mis les pieds dans ce bâtisse-là?
Moi, je m'en rappelle en tout cas, parce que j'ai fait du bénévolat là, pendant quelques années. J'ai finalement habité dans mon local pendant 2 ans. Donc, on a clairement un rapport assez intime avec l'endroit. Mais oui, j'ai commencé, ça me fascinait comme endroit, puis je me remettais d'années de toxicomanie où j'étais plutôt isolé, puis ça m'a permis de trouver une communauté. J'ai commencé à faire du bénévolat. Au début, j'étais très gêné, là, qui sont ces gens, mais qui sont attirants, mais qui sont full ouverts. T'sais, ils me connaissaient pas tant, mais... Oh, il veut s'impliquer, ben let's go. Il n'y a pas d'attente particulière, juste sois sympathique et ça va bien aller. T'sais. Puis là-bas, ils vendaient pas d'alcool, c'était ils réfrigéraient l'alcool. Fait que là, genre, les gens arrivaient avec leur bière, là, genre, tu mets, ou leur bière ou leur breuvage non alcoolisé, puis là, tu mets ça dans le frigo, puis là, c'est genre juste sympathique et le fun. Puis là, à partir de là, c'est créer un lien avec le temps, tu sais, de communauté là, très organique. Et pour Frère Foutre, c'était comment?
Ah oui, ben oui, moi je me rappelle très bien la première fois qu'on était au Pantoum parce que ça faisait déjà 1 an ou 2, je me rappelle plus, qu'on pratiquait un peu comme n'importe quelle band, tu sais, hardcore typique, là, c'est-à-dire une vieille bâtisse désaffectée en béton, très poussiéreuse, beaucoup trop de canettes de bière qui puent laisser là depuis des mois, etc.
Cette ambiance d'amiante.
Oui, exactement, puis tu sais, on croisait pas grand monde à part le band Décharge. Le band Décharge, mythique band Grindcore Décharge, qui était venu cogner à notre porte pour dire qu'un jour on allait, je sais pas, devenir big, ou en blague, parce qu'on copiait ce qu'on entendait à travers les murs. On faisait du Grindcore comme eux. En tout cas, bref, c'était ça, tu sais, c'était un peu une vie typique, ordinaire, là, de gens qui pratiquent dans des locaux. Puis soudainement, on est allé au Pantoum, puis quand je te parlais de l'aspect justement communautaire et le fait qu'on se croise vraiment, puis c'est un milieu de vie et pas juste comme des petites cellules isolées. Ben, tu sais, c'était tellement étrange parce que moi, j'étais là puis je faisais mon gros scream hardcore à côté d'un gars qui se faisait un spaghetti bolognaise. Fait que c'était très sympathique et un peu absurde. Puis c'est ça, je pense que c'est vraiment un milieu de vie comme ça. Fait que ça ressemble pas du tout à aucun lieu de pratique. C'est très vivant. Bon, c'est comme une grande maison où on est tous colocs. Et artiste.
Puis y a-tu des colocs là-dedans avec qui vous n'avez pas encore eu l'occasion de collaborer, mais avec qui vous aimeriez ça?
Écoute, le Pantoum, ça se renouvelle constamment. Là, depuis la pandémie, l'équipe s'est vraiment agrandie. Ils sont devenus propriétaires. Avant, c'était plutôt clandestin, mais toléré. Puis là, c'est devenu nos BNL. L'équipe s'est agrandie, c'est plus professionnalisé. Il y a toujours du nouveau monde. Il y a une nouvelle génération. Il y a des techs de 20 et 22 ans. Là. Nous, on est rendus des vieux, là, mais des vétérans. Mais, tu sais, il y aura toujours des gens avec qui on va avoir des esprits, comment on dit ça, kindred spirits, là, des atomes crochus, des affinités, tu sais. Parce que même hier, on a fait un show au Pantoum, oui. Puis il y a une jeune technicienne qui travaille là-bas, Mia, qui m'a dit que je l'inspirais à vouloir lancer son drum au bout de ses bras à la fin de ses spectacles désormais. Fait que je trouvais que c'était comme, yeah, on crée des liens à travers l'expression artistique, aussi folle soit-elle ou aussi douce soit-elle, dépendant.
En plus de faire de la musique qui est punk, qui est métal, tout ça, il y a quand même un grand côté qui est... théâtral dans la musique des Saint-Martyrs, et de ce que j'ai compris, de ce que je vais voir tout à l'heure, ça risque d'être très, très théâtral aussi sur scène. Est-ce que vous êtes des gars de théâtre?
Moi, j'ai commencé... j'ai pas une formation de musicien à la base. J'ai commencé en poésie. Je faisais les circuits slam, mais j'aimais pas vraiment ça personnellement. J'ai un peu un a priori négatif face au slam. Donc moi, j'allais là et j'essayais de provoquer des affaires avec des textes extrêmement bizarres, criés, très dérangeants, malaisants. Donc c'est vraiment de là que ça vient. On a personne est en théâtre, mais Souffrance a travaillé un peu dans le milieu du théâtre. Là. Il a fait quelques projets.
Moi, personnellement, je viens plus du milieu des drogues dures et des problèmes de santé mentale.
Ils sont très...
Oui.
C'est... C'était assez dramatique.
Je pense que ça ajoute du drame à l'existence, clairement, mais on est certainement des gens intéressés par le grand art. Là. On a des prétentions clairement littéraires et lyriques dans ce qu'on fait. Là. Mais il y a une chose que je tiens à dire sur Frère Foot, c'est qu'il a été élu la personne la plus drôle de notre école secondaire. Oh. Donc, le théâtre était déjà en lui. c'était clairement déjà un MC de qualité supérieure à l'époque. Moi, il m'a tout appris, là. Moi, je riais pas avant d'avoir rencontré mon frère foutre.
Donc, il y a de l'humour aussi dans Saint-Martyr, là.
Oui, oui, tout à fait. Il y en a moins qu'auparavant, je pense, parce qu'on avait envie d'expérimenter avec une formule plus confrontante, qui vient vraiment remuer un peu plus, puis qui est plus sombre, puis qui est plus, un crescendo de violence. Donc, on était plus intéressé par l'aspect dramatique de la violence, en particulier. Donc, on décroche un peu moins qu'auparavant. Auparavant, c'était vraiment un genre de cabaret trash. On présentait les musiciens, puis chacun faisait un petit numéro.
Puis même le nom du band aussi, tu sais, les Martyrs de Mars, c'est quand même plus d'humour là-dedans que les Saints Martyrs, où tu le sens que, tu sais, il y a une importance, un saint, mon Dieu, c'est incroyable, là.
Ouais, c'est ça. Puis je pense qu'à la base, justement, c'est l'idée, je pense que c'était des souffrances personnelles qui étaient tournées en dérision, mais d'une manière quand même assez confrontante ou qui faisait réfléchir, ou beaucoup de personnes pouvaient s'identifier, je pense, par rapport à leurs angoisses existentielles ou à leur sentiment de cafard ou d'être pas à la hauteur ou de vivre dans un monde qui est pas à la hauteur. En tout cas, bref, c'était ça, être un martyr de merde, je pense. Saint-Martyr, c'est juste que après avoir goûté de cette marde pendant des années, à un moment donné, on s'élève, hein? Plus on est dans la boîte et puis plus on atteint des hauteurs, mais par le bas.
C'est plus facile, mettons, de dire à tes parents, je suis dans un ben qui s'appelle Saint-Martyr que je suis dans un ben qui s'appelle Martyr de marde?
Pour moi, oui, personnellement, mais apparemment, en France, peut-être ta mère s'oppose à la sainteté, à la religion.
Ma mère est juste contente que je sois en vie. Puis depuis les débuts du ben, elle a toujours partagé tous nos posts avec un enthousiasme qui me dépasse personnellement, que ce soit sous le nom des Saint-Martyrs ou des Martyrs de marde. Elle a toujours été très heureuse de m'encourager à faire ce que j'aime et ce qui me rend heureux.
Ben, je vous encourage, vous tous, autour de moi, gens qui nous écoutez, à faire ce que vous voulez, à faire ce qui vous rend heureux, heureuse. Et si jamais vous écoutez cette entrevue, c'est parce que j'ai survécu à toute la violence à laquelle je vais pouvoir assister ce soir. Puis comme je risque d'avoir besoin de mes deux bras pour faire le montage aussi, ça veut dire que tous mes membres sont probablement corrects. Merci beaucoup, Saint-Martyr.
Merci, maman.